France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour. Les régimes autoritaires n'ont jamais ignoré la culture, pas plus que le sport. Ils ont pu la museler, la mettre au pas, l'utiliser comme un outil politique. Si on connaît les rapports entre l'Allemagne nazie, la France de Vichy et, plus récemment, l'Italie fasciste et la musique, la position de l'Espagne franquiste reste, en tout cas de ce côté-ci des Pyrénées, méconnue. Un jeune historien de la musique, Igor Contreras, mon invité, y a consacré un travail de recherche considérable qui permet d'en cerner les enjeux et d'appréhender les rapports ambigus et souvent inattendus du pouvoir avec la création et l'avant-garde. Tant que les révolutions ressemblent à cela, l'avant-garde musicale sous Franco, d'Igor Contreras, aux éditions Horizon d'attente. Jorge Federico Osorio, piano, le Royal Philharmonic Orchestra, dirigé par Enrique Batis. C'était le début allegro con brio du concerto éorique de Joaquín Rodrigo. Bonjour Igor Contreras.
Bonjour Philippe.
Vous êtes historien de la musique et vous venez d'écrire pour une jeune maison d'édition Horizon d'attente qui publie votre travail, donc qui repose sur votre thèse soutenue à l'EHESS. Ce livre, donc, tant que les révolutions ressemblent à cela, l'avant-garde musicale sous Franco. L'avant-garde musicale sous Franco, on a une idée de ce que ça peut être, mais tant que les révolutions ressemblent à cela. C'est une citation, donc, entre guillemets, d'où vient-elle?
C'est une citation de Franco lui-même, qui est, quand il est allé visiter une exposition d'art contemporain, et au moment de passer à la salle d'art contemporain, un fonctionnaire lui a dit « Monsieur, on allait voir cette salle, c'est la salle des révolutionnaires ». Et lui, il a répondu, tant que les révolutions ressemblent à cela, sous-entendu, je suis pas inquiet.
Je suis pas inquiet, je peux continuer d'accord, à dormir sur mes deux oreilles. Très bien. Donc, votre livre repose sur la période franquiste, hein, qui s'étend de 1939 à 1975, date de la mort du général Franco. Et vous êtes essentiellement consacré à la période d'après-guerre, et vous expliquez dans votre introduction que cette période de l'Espagne franquiste peut se diviser en trois périodes. La première qui serait donc la période qui s'étend pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui serait plutôt une période assez qui muselle plutôt la création, on va dire. Mmh. Et puis, jusqu'à la fin des années 50, une période nationale catholique, dites-vous. Mmh. Et puis, jusqu'à la fin des années du régime de Franco, c'est-à-dire jusqu'en 1975, c'est une période vraiment où on voit que la culture s'étoffe. Elle repose notamment sur cette formidable croissance économique qu'a connue l'Espagne dans les années 60. J'ai dit en introduction, on est un peu, moi le premier, j'ai été très surpris de voir les rapports à la fois inattendus et ambigus qu'entretenait le pouvoir franquiste avec la création, parce qu'on peut imaginer spontanément que la première réaction va être contre de museler justement la création, dire on reste dans une musique qui se nourrit du folklore, de la tradition. Mmh. Et on paie un tribut à la figure vraiment tutélaire de Manuel de Falla. Mm-hmm. Et puis finalement, on voit que les choses ont pris un autre tour.
Oui, en effet, c'est cette période du livre auquel je me concentre spécifiquement, c'est les années 60. Ouais. C'est une période que le franquisme appelle d'ouverture vers l'extérieur, un peu ouverture obligée, puisqu'il se retrouve après la Deuxième Guerre mondiale isolé en Europe. Et les élites politiques qui s'occupent de la culture se rendent compte que l'art et que la culture espagnole ne s'impose pas à l'international.
Ouais. Elle n'est pas assez connue à l'extérieur, hors du pays.
Ouais. Ils ne gagnent pas de prix au Biennale d'art. Ouais. Et du coup, ils changent et ils utilisent l'art pour à des fins de diplomatiques et avec une forte connotation propagandistique. Ouais, ouais. Et d'abord les arts plastiques et un peu après, dans les années 60, au milieu des années 60, la musique d'avant-garde. Une fois que ces compositeurs ont commencé à être un peu connus dans des lieux prestigieux européens comme Darmstadt, Donaueschingen, etc., et qui ont un fort discours identitaire espagnol, qui veulent faire de la musique avant-gardiste, tout en restant espagnol et en faisant une musique dodécaphonique mais espagnole, sérielle mais espagnole. Et du coup, ils n'hésitent pas à les promouvoir à l'intérieur du pays pour des événements très internationaux qui invitant des gens de l'extérieur pour aller voir que l'Espagne est un pays moderne et dont cette musique bizarre a aussi lieu.
D'accord. Donc, Igor Contreras, si je comprends bien, au départ, c'était plutôt utiliser l'art, en tout cas la création musicale, comme une vitrine vis-à-vis de l'extérieur, des pays extérieurs, plus qu'un travail en interne.
C'est plus vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi en interne. Par exemple, en 64, ils sont organisés au sein d'une colossale campagne de propagande autour des 25 ans d'épée, de
la paix franquiste. On y reviendra tout à l'heure, les années 64, où il se passe vraiment beaucoup de choses. Oui.
Ils ont créé un concert de la paix, où ils ont passé commande à des compositeurs de musique d'avant-garde, comme Luis de Pablo et Cristóbal Halffter. Et tout ça était pensé pour l'intérieur, puisque le concert a été diffusé à la télé et ça n'a pas très bien marché puisque la réception a été assez mauvaise, avec des lettres envoyées à la presse, avec des gens qui se plaignaient de pourquoi cette musique était retransmise à la télé. Ouais.
Mais alors, cette prise de conscience d'un retard de la création musicale espagnole, elle avait été déjà un peu signalée par un texte du chef d'orchestre Adolfo Argenta en 1954, je crois, qui écrit dans un article que l'Espagne, justement, est à la traîne par rapport aux autres pays européens en termes de création et d'avant-garde musicale.
Tout à fait. Argenta, c'est un chef d'orchestre qui s'est formé en Europe, qui s'est formé en Allemagne. Et dans cet article qui est sorti dans un numéro monographique qui fait un bilan de 15 ans de création après la guerre civile, il dit que à part le concerto d'Aranjuez de Rodrigo,
même spécialement avant-gardiste, on va dire,
mais même les autres à part ces tubes, les autres œuvres de Rodrigo même pas ne sont pas, c'est pas très facile à les programmer ailleurs, et la musique des jeunes compositeurs espagnols non plus. Cet article crée un gros scandale. Rodrigo écrit au ministre de Culture en exigeant une rectification de la part du chef d'orchestre. Le parti unique du franquisme, la Falange, le parti fasciste, publie un article dans la presse en exigeant une rectification de la part du chef d'orchestre. Qu'il doit faire, il doit s'excuser publiquement et expliquer pourquoi qu'est-ce qu'il cherchait avec cette critique, et en disant qu'il voulait rien d'autre que la grandeur de l'Espagne, etc., et qu'il pour lui il ne reconnaît pas un autre régime que le franquiste.
Oui, lento, le final du deuxième quatuor à cordes de Ramón Barcé par le quatuor Léonore. Igor Contreras, cette œuvre donc date de 1965, donc la période sur laquelle vous concentrez votre travail sur la musique dans l'Espagne de Franco, essentiellement donc dans ces années 60. Juste avant, à la fin des années 50, en 1958, se crée à Madrid ce groupe qui s'appelle Nueva Musica et qui regroupe justement des jeunes compositeurs comme entre autres Ramón Barcé, puis d'autres compositeurs qui, je pense, qu'on connaît pas très bien comme Alberto Blancafort, Fernando Ember, Antonio García Abril, Manuel Cara, des compositeurs qu'on connaît pas très bien, en tout cas, je pense, en France, ils sont certainement plus connus en Espagne, je ne sais pas. Comment est né ce mouvement, justement, Nueva Musica, en 1958? Comment ça s'est passé?
Oui, Nueva Musica s'est créé à Madrid, c'est des gens qui se sont rencontrés au conservatoire et nés autour de 1930.
Ouais.
On les a appelés la génération de 1951, puisqu'ils sont atteints à la majorité d'âge, qui à cette époque était 21 ans, en 1951. Et à cette époque, Sopeña, il était, c'était directeur du conservatoire Federico Sopeña, qui a promu ses compositeurs jeunes, et surtout à la radio Enrique Franco, qui était très intéressé par la musique contemporaine, qui les a aussi soutenus. Ils se sont groupés, ils ont adopté ces noms de Nueva Música, très en lien avec Neue Musik allemand.
Ouais.
Ils se sont présentés de façon en tant que collectif, mais sans vouloir avoir une esthétique commune. Et en fait, esthétiquement, ils sont très hétérogènes.
Oui, c'est ce que vous dites dans votre livre. Et puis, en fait, ce mouvement n'a pas duré longtemps, quoi.
Très longtemps. Ils se sont. Du coup, c'était la mémoire de ces groupes. Et donc, ça reste un moment comme ça marquant, comme des volontés de se grouper et de donner ces gestes militants pour la musique contemporaine. Mais et du coup, pour l'histoire de la musique, il apparaît dans beaucoup de livres d'histoire de la musique. Mais quand on étudie un peu plus en détail aussi, même la mémoire qui sont les acteurs eux-mêmes sur cette initiative est pas homogène.
Mm-hmm.
Luis de Pablo dit que c'était une bonne chose. Ils ont réussi à avoir à attirer l'attention de la critique. Ramon Barthes, dont le quatuor on vient d'écouter, par exemple, il dit qu'on n'a pas prêté beaucoup d'attention. Alors je pense avec les sources que j'ai pu consulter, la critique a vraiment, ou une certaine critique a soutenu ces groupes.
Ouais.
Même des fois, ils parlaient pas des heures, mais la seule initiative de créer un groupe, de se réunir et de vouloir présenter des œuvres esthétiquement proches à ce qui s'est fait en Europe valait déjà l'applaudissement de la critique.
D'accord. Igor Contreras, le gouvernement, l'État soutenait ce genre donc de création, comme la musique de Barcé qu'on vient d'entendre
Pas, l'État n'a pas soutenu Nueva Música, qui a été une initiative qui a été des compositeurs et de Enrique Franco, qui les a tenus à la radio et aussi il y a aussi des critiques et des journaux, etc. Le régime s'est intéressé à cette génération de compositeurs une fois qu'ils ont commencé à avoir un peu des succès ou des sont connus à l'intérieur du pays, au niveau national et à l'international. Et ils se sont intéressés à eux pour des initiatives qui organisaient le ministère de l'Information et du Tourisme sous forme de festivals de grande envergure.
C'est un extrait de Planto por las Víctimas de la Violencia, une œuvre de 1971 de Cristóbal Halffter. C'était l'orchestre symphonique du Südwestfunk de Baden-Baden, dirigé par Ernest Burst. C'est l'enregistrement de la création à Donaueschingen le 17 octobre 1971. Igor Contreras, Halffter fait partie de cette génération. Hein, il est né en 1930, œuvre de 1971. Mais avant, en 1964, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est une année qui est constellée de grandes manifestations. Il y a le concert de la paix pour les 25 ans du franquisme. Il y a le premier festival de musique Amérique et Espagne, la Biennale internationale de musique contemporaine. C'est finalement une activité musicale totalement incroyable.
Oui, tout à fait.
On est vraiment surpris de découvrir que le régime franquiste organise de telles manifestations en faveur de la musique d'avant-garde.
Oui, tout à fait. En fait, c'est organisé par le ministère de l'Information et du Tourisme. Ils sont beaucoup de pratiques à organiser ce genre d'événements. Ils organisent aussi des grands festivals d'été en Espagne, comme le Festival de Grenade, le Festival de Santander. Ils ont beaucoup d'expérience et ils font ça d'une façon assez sophistiquée et je dirais un peu aussi assez pervers parce qu'il se veut une politique qui se veut apolitique. Ils présentent ça comme de la pure création contemporaine de la pure musique, mais si on lit pas attentivement, c'est très explicite dans les sources, et ils disent explicitement que le plus grand intérêt de ces manifestations, c'est un intérêt politique, et ce qu'ils font, c'est qu'ils invitent des personnalités du monde musical étranger, des critiques, des compositeurs, qui viennent visiter l'Espagne, ils les accueillent merveilleusement bien, ils les promènent, ils les amènent à des spectacles de flamenco, etc. Et ces critiques, après, elle est tout à fait surprise de voir cette modernité en Espagne, d'être si bien accueillie, de trouver une scène de musique contemporaine, du sérialisme, etc. Et du coup, ils rentrent dans leur pays respectif et ils écrivent des chroniques tout à fait élogieuses. Et après, ce qu'il fait, le ministère de l'Information et du Tourisme, il rassemble toutes ces chroniques et il publie des livres qu'il présente dans une prochaine édition dans notre festival qu'ils organisent. Et du coup, moi, je trouve ça tout à fait sophistiqué, mais aussi très, très, très... Je trouve pas le mot, un peu...
Oui, on comprend, effectivement. Et on peut même imaginer la position des compositeurs vis-à-vis du régime. À la lecture de votre livre, moi, je sais pas trop quoi, des compositeurs comme justement Halffter ou Luis de Pablo, tous les deux nés en 1930, quelle était leur relation ou leur position vis-à-vis du régime? Elle est assez compliquée à définir en disant c'est tout noir ou c'est tout blanc. C'est plus compliqué que ça, quand même.
Tout à fait. Une des choses que j'ai cherché à faire avec ces livres-là, on a, d'une façon générale, on a l'histoire de la musique espagnole, a présenté ses compositeurs comme faisant toutes ses activités pour la musique contemporaine espagnole, en rattrapant le retard, mais en faisant ça dans des institutions officielles, mais qui seraient apolitiques. Et j'essayais de montrer que ça serait un peu plus complexe. Pas non plus de le tâcher des collaborateurs, mais quand même, ils sont cautionnés avec leur discours et leur participation, ils sont cautionnés à ces activités, en montrant toujours comme des compositeurs espagnols, très, très, très obsédés par l'identité, et aussi en pensant, par exemple, que des questions comme le sérialisme n'entraînent pas une perte d'identité et qu'ils restent des compositeurs espagnols tout en étant sérialistes. Et ça, le régime a totalement aimé. Et c'est pour ça que je pense qu'il les a promus.
No!
par Maria Martinez, le groupe Coan dirigé par José Ramón Encina. C'était un extrait de Comentarios de Luis de Pablo, une œuvre de 1956. Igor Contreras, on n'a pas le temps de détailler tout votre livre qui est absolument passionnant et qui fourmille vraiment d'informations sur cette période de l'Espagne franquiste et l'avant-garde musicale qu'on connaît vraiment très 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 mal en France. Comment ça s'est terminé? Donc Franco meurt en 75. Les dernières années, est-ce qu'il y avait toujours cette effervescence ou il y avait contraire une espèce de bouillonnement, une sorte d'effet de cocotte minute? Comment ça s'est passé les dernières années de la création musicale en Espagne?
Oui, tout à fait. La fin du franquisme est très tendue politiquement. Mais par exemple, c'est pour parler de ces compositeurs, à la fin du franquisme, ces compositeurs, surtout Cristóbal Jaffé, prend ses distances avec le régime et il produit une série d'œuvres qui ont une connotation sociale, un engagement social et politique autour des thèmes comme la non-violence, les droits des hommes ou l'objection de conscience. Et par exemple, cette œuvre sur l'objection de conscience n'est pas jouée en Espagne puisque le service militaire pour les régimes franquistes et pour les militaires franquistes, c'est très important. Mais quand même, pour parler du milieu de la musique, les années de la transition démocratique restent des années aussi où des compositeurs qui n'ont pas été soutenus par le régime se plaignent d'en avoir eu d'opportunités et dénoncent un peu les concomitances de ces compositeurs avec le régime.
Très bien, merci beaucoup Igor Contreras. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions Horizon d'attente. Tant que les révolutions ressemblent à cela, l'avant-garde musicale sous Franco. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Dophard Guéry, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Pascal Huyn et nous parlerons de Kurt Weill. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.